L'heure est avancée. Laissez-moi juste lire quelques passages bibliques. Tite 3 a déjà été lu. Je voudrais encore lire le verset correspondant du chapitre 3 de Tite. Donc, ici au verset 3, du verset 3, oui. Tite 3, verset 3, « Car autrefois nous aussi, nous avons été sans compréhension, nous avons désobéi et nous nous sommes égarés, servant des désirs et des convoitises multiples, vivant dans la méchanceté et l'envie, haïssables et remplis de haine les uns envers les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour envers les hommes sont apparus, là, il nous a sauvés non pas en fonction d'œuvres de justice que nous aurions accomplies de notre côté, mais selon sa miséricorde, par le bain de la nouvelle naissance et du renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu abondamment sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que par sa grâce, nous soyons justifiés et que, selon notre espérance, nous devenions héritiers de la vie éternelle. Il est question ici du renouvellement par l'Esprit, d'une abondante effusion de l'Esprit. Et je pense que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons la prendre à cœur et dire, « Seigneur, nous ne nous contentons pas des récits, nous ne nous contentons pas de ce que d'autres ont vécu. À quoi cela nous servirait-il à toi et à moi si dans le christianisme primitif, dans l'Église primitive, l'Esprit avait été répandu en abondance dans les Églises? Si le renouveau, la nouvelle naissance, si toutes ces choses avaient eu lieu et qu'elles ne se soient pas produites aussi pour nous? Alors, lorsque nous lisons de tels passages bibliques, un grand désir monte en nous et une prière jaillit de notre cœur. Seigneur, fais la même chose avec nous. Fais-le en moi, fais-le en nous tous. La chorale a chanté concernant la pluie de l'arrière-saison. Dans Zacharie 10, au verset 1, il est écrit, Zacharie 10, verset 1, « Demandez à l'Éternel la pluie dans le temps de la pluie de l'arrière-saison et de la pluie de l'avant-saison. L'Éternel qui crée les nuages d'orage et leur donne des tombes et leur donne des trompes d'eau. Vous enverrez une abondance pluie pour toute plante poussant dans les champs. » Donc, demandez à l'Éternel la pluie dans le temps de la pluie de l'arrière-saison et de la pluie de l'avant-saison. À la fin, au commencement de l'Église du Nouveau Testament, il s'agissait de la pluie de l'avant-saison. Mais à la fin de l'Église du Nouveau Testament, il s'agit de la pluie de l'arrière-saison. Il s'agit de la même effusion de l'Esprit Saint. Et s'ils l'ont demandé et ont vécu l'effusion de l'Esprit, ne devrions-nous pas avoir la foi, prier de la même manière et vivre la même chose? Car telle est la promesse. Demandez au Seigneur la pluie au temps de la pluie de l'arrière-saison. Nous savons que la fin de toutes choses est proche. L'Église du Nouveau Testament a reconnu et vécu son commencement d'une manière merveilleuse. Merveilleuse. Dieu s'est attesté au milieu d'elle. Le Saint-Esprit a été répandu de la même manière. L'Église doit vivre à la fin l'action glorieuse et merveilleuse du Saint-Esprit. Si nous voulons savoir ce qui se passe à la fin, nous devons savoir ce qui s'est passé au commencement. C'est en effet aujourd'hui le dimanche de la Pentecôte. Lisons l'histoire pour que le désir grandisse encore en nous. Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1. Actes des Apôtres 2, verset 1. Quand le jour de la Pentecôte fut arrivé, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il s'éleva du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et puissant, et il remplit toute la maison où ils se trouvaient. Des langues leur apparurent comme du feu se divisant en petites flammes, et une se posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs, des hommes craignant Dieu, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Quand ce bruit eut lieu, ils s'assemblèrent en grand nombre et furent troublés, car chacun les entendait parler dans sa propre langue. Alors, tous furent saisis d'étonnement et demandèrent: tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun parler dans notre propre langue, celle dans laquelle nous sommes nés? Et puis, toutes ces langues différentes sont énumérées, 16 et 17 en tout. Le Saint-Esprit s'était déversé, était tombé, et nous voyons que ce ne sont pas ces hommes de Galilée qui ont parlé. Ils auraient parlé dans leur propre langue. Ici, c'est l'Esprit qui a parlé à travers eux. Car il est écrit, ils ont parlé comme l'Esprit leur a donné de s'exprimer. Non pas comme ils le pensaient dans leur esprit, mais comme l'Esprit l'a fait en eux. Puis, nous continuons à lire la deuxième partie du verset 11. Nous les entendons proclamer dans nos langues les grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Verset 12. Ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient, disant: ils sont pleins de vin doux. Il y aura toujours au moins deux ou trois groupes qui, justement, auront des vues et des opinions différentes. Mais ceux qui craignaient Dieu, ils demandaient: que signifie tout cela? Ils étaient concernés, ils étaient perplexes et se disaient les uns aux autres: qu'est-ce que cela signifie? Nous lisons maintenant du verset 14. Alors Pierre, s'étant joint aux 11, s'adressa à eux en ces termes, élevant la voix, « Hommes juifs, et vous tous qui habitez Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces hommes-là ne sont pas ivres, comme vous le pensez. Ce n'est que la troisième heure du jour. Non, c'est ici que s'accomplit la promesse du prophète Joël. Dans les derniers jours, cela arrivera, dit Dieu. Je répandrai mon esprit sur toute chair, de sorte que vos fils et vos filles prophétiseront, que vos jeunes gens auront des visions et que vos vieillards recevront des révélations en songe. Dans cette énumération, nous n'entrerons pas dans les détails des dons de l'Esprit, mais nous constatons ceci. Lorsque le Saint-Esprit vient sur une personne, il s'empare de la personne. Il s'empare de ses yeux, il s'empare de sa bouche, de sa conscience, de son subconscient. Les songes sont dans le subconscient. Nous n'avons aucune influence sur eux. Mais des révélations doivent se produire dans les songes. Dieu confisque l'homme tout entier pour le mettre à son service, pour se glorifier à travers lui. Bien sûr, nous savons que beaucoup de choses ont été faites dans le passé, mais nous savons aussi que Dieu a encore à sa disposition le vrai, le véritable pour l'Église qu'il a appelée. Il ne nous sert à rien de regarder telle ou telle Église et de dire « Oui, on a déjà fait tant de choses avec ces choses. » Ce n'est pas ton problème, ni le mien. Ça, c'est le leur. Notre question est la suivante. Pas ce que Dieu a fait, mais ce qu'il a pu produire comme effet. Car Dieu veut produire quelque chose. L'ennemi, lui, il veut faire quelque chose, mais Dieu, lui, il veut produire quelque chose. Avec qui est-ce qu'il peut accomplir quelque chose? Là où les hommes se mettent à sa disposition, la conscience et le subconscient, la bouche, les lèvres, tout à sa disposition. Et comme il est rapporté ici, des langues leur sont apparues comme si elles avaient été coupées par le feu. Je l'ai souvent demandé et dit ces dernières années, pourquoi justement des langues comme divisées par le feu ont apparu. C'est notre langue qui a le plus besoin du feu divin, parce que c'est notre langue qui fait le plus de mal. Mais à partir du moment où le Saint-Esprit vient sur nous et que le feu de Dieu touche notre langue, alors les grandes actions de Dieu sont annoncées. Ce n'est pas à ce moment-là que le mal est fait. C'est à ce moment-là que Dieu produit un effet en toi et en moi. Produit quelque chose en toi et en moi et à travers nous tous. C'est ici que Pierre a pu dire dans sa première prédication, au verset 15, Ces hommes-là ne sont pas ivres comme vous le pensez. Ce n'est que la troisième heure du jour. Non, c'est ici que s'accomplit la promesse du prophète Joël. Non. Verset 17. Dans les derniers jours, cela arrivera, dit Dieu. Donc, vous voyez, dit Dieu. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme qui a fait la promesse. C'est Dieu qui a fait la promesse. Et tant que le temps de grâce se prolonge et que les derniers jours sont encore là, la promesse est valable. Pierre dit, elle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui seront encore, qui sont encore au loin et aussi en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Au verset 18, il poursuit. Oui, même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là afin qu'ils parlent prophétiquement. Le verset 19, je ferai paraître des signes miraculeux dans le ciel en haut et des signes sur la terre en bas. Du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Et cela arrivera. Et il arrivera quelque chose. Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Là où le Saint-Esprit peut agir. Il a lu le verset 21. Lorsque la parole est proclamée, les gens sont sauvés, guéris, bénis. Sans l'action du Saint-Esprit, la proclamation de la parole reste sans effet, est vide. Mais si le Saint-Esprit peut agir, alors la parole accomplit dans ton cœur, dans mon cœur et dans ma vie ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Et c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas imiter quoi que ce soit de la Pentecôte. Mais nous voulons faire l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit de manière véritable, authentique, être unis et fondus ensemble de sorte que nous puissions former une unité divine. Que le Seigneur nous ait montré à toi et à moi par sa parole que ces choses ont été promises et qu'elles sont encore valables aujourd'hui. Que nous pouvons encore vivre et expérimenter, recevoir aujourd'hui ce que Dieu a promis. Pierre n'a pas eu besoin de beaucoup de paroles, n'a pas eu besoin de faire beaucoup de paroles. Il a parlé homme. Ici s'accomplit ce qu'a prophétisé le prophète Joël. La parole a pris forme. La parole s'est accomplie. La promesse est devenue réalité dans les croyants. Nous avons déjà parlé de cela hier soir. Si nous voulons que les dernières promesses que Dieu a faites s'accomplissent encore, laissez-moi dire ici aujourd'hui, à moins que la promesse principale ne s'accomplissent, sinon les autres promesses resteront inaccomplies. Et la promesse principale de l'Église est la suivante. Vous recevrez de la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Une fois que cette promesse principale, c'est ainsi que je la qualifierai pour une fois, s'est accompli à Jérusalem. Toutes les autres promesses ont trouvé leur accomplissement. Les pécheurs ont été sauvés, les malades ont été guéris, les possédés ont été libérés, Mais Jésus a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Les nombreuses promesses que Dieu a faites à l'Église sont enchâssées dans cette promesse principale d'être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Sont enchâssés, sont contenus dans cette promesse principale d'être remplis de la puissance du Saint-Esprit. Ensuite, l'accomplissement de toutes les autres promesses vient, pour ainsi dire, de lui-même. Cela signifie que Dieu peut les accomplir en toute simplicité. Eh bien, après ce service divin, nous aurons le baptême, le service de baptême, et j'espère que tous ceux qui souhaitent se faire baptiser savent déjà de quoi il s'agit dans le baptême, qu'ils ont lu dans la Bible et qu'il n'est pas nécessaire d'en parler longuement ici. Peut-être qu'avant de nous faire baptiser, nous prendrons le temps de lire le texte qui s'y rapporte. Que Dieu nous bénisse tous, qu'il garde le ciel ouvert au-dessus de nous et qu'il fasse descendre la bénédiction de manière puissante. Nous prendrons encore quelques minutes pour prier ensemble. Peut-être ne vous lirai-je que ce passage, si je le trouve, justement de l'Épître aux Romains, où il est écrit que tous ont élevé la voix ensemble, car on n'est pas habitué à cela dans les églises et les églises libres, et parfois on ressent une petite perturbation à ce sujet, et cette petite perturbation peut nous priver de la grande bénédiction, et ce serait dommage. Romains 15, versets 5 et 6. Romains 15, versets 5 et 6. Mais que le Dieu de qui vienne la persévérance et la consolation vous aide à avoir entre vous une même pensée à la manière du Christ Jésus, afin que d'un commun accord, tous ensemble, vous puissiez d'une seule bouche glorifier le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Si Dieu a créé les sentiments de Jésus, l'attitude de Jésus, les pensées de Jésus, l'entente, le lien entre nous et avec lui, si tel est le cas, que ces sentiments-là sont en nous, alors nous pouvons, d'un commun accord, comme d'une seule bouche, louer Dieu, notre Père, de tout notre cœur, au nom de Jésus-Christ. La question est de savoir si Dieu a pu créer en toi et en moi les dispositions de Jésus, ce sens de l'unité entre nous. Si oui, alors élève la voix, ouvre la bouche et que ce qui remplit ton cœur se transforme en louange et en adoration de notre Dieu, afin que vous puissiez d'une seule bouche louer le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il relie la fin du verset 6 de Romains 15. Le jour de la Pentecôte, ils étaient unis dans la prière, unis dans un même sentiment. Et le Saint-Esprit est tombé. Que Dieu accorde vraiment cette unité par grâce. Et il est dit qu'il est doux et agréable, qu'il est doux de vivre entre frères d'un même cœur qui sont unis. C'est là que Dieu a dispensé sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Psaume 133, que Dieu nous bénisse tous. Au nom de Jésus, amen. Levons-nous et prions. Faisons-le ensemble. Il n'est pas nécessaire de faire trop de bruit, ni trop peu de bruit, juste comme l'Esprit de Dieu nous pousse et nous conduit. Père céleste, je te remercie de tout cœur de ce que ta parole accomplira ce pourquoi tu l'as envoyé. Tu nous as appelés à sortir. Tu as pris notre obstination et tu nous as donné les sentiments de Jésus afin que nous puissions parvenir à la concorde, à l'unité entre nous et t'adorer ensemble comme d'une seule bouche et louer ton nom. Sauveur, nous louons la puissance de ton sang, la puissance de ta parole et la puissance de ton esprit. Agis de manière puissante. Seigneur, tu sais ce dont chaque personne a besoin, ce qui l'anime, ce qu'elle demande. Sauveur, interviens, ne reste pas loin et ne te tais plus, mais réponds, fais que la parole devienne réalité et que les promesses s'accomplissent. Sauveur, nous te louons. Tu es présent. Alléluia. Tu bénis. Je te remercie pour cela. Tu te ferais un chemin puissant parmi ton peuple pour bénir et nous amener au but. Puissions-nous surmonter toutes les épreuves et sortir victorieux de toutes les épreuves grâce à ta grâce, par ta grâce. Seigneur, il semble parfois que ton peuple ait été battu, que Goliath nous ait défié, mais tu es notre David. Tu as été vainqueur. Je t'en remercie. Que la victoire de la croix de Golgotha se manifeste dans toute sa puissance et sa gloire à la louange et à l'honneur de ton Saint-Nom de Jésus. Amen.